بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفعني الإسلام لغمياسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité de vivre cette dernière décade du mois de Ramadan. En début de mois, nous avons maintes et maintes fois rappelé qu'il est important d'être reconnaissant envers notre Seigneur qui nous donne la possibilité de vivre un Ramadan de plus de notre vie. Autant ces premiers jours de Ramadan, c'est un bienfait de la part d'Allah, autant cette dernière décade, c'est un bienfait encore plus important, c'est vraiment un bienfait immense. Et dans cette dernière décade, Allah Azza wa Jalla a accordé à cette Ummah ce qu'il n'a accordé à personne, aucune communauté, aucune religion, aucun peuple, aucun prophète n'a eu un tel cadeau de la part d'Allah Azza wa Jalla comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu ce fameux verset, ce fameux surat « Inna anzalnahu fi » Laylatul Qadr. Et donc, qu'est-ce qui fait la... qu'est-ce qui distingue cette dernière décade du mois de Ramadan? C'est parce que dans cette dernière décade se trouve la nuit du destin. Mais il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, avant même de parler de la nuit du destin, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait certaines habitudes lors de la dernière décade du mois de Ramadan. On sait tous que le prophète, alayhi salatu wassalam, augmentait ses ibadah, ses actes d'adoration durant le mois béni. Il en faisait énormément en temps normal. Vous savez, quand on lit parfois les textes et les hadiths qui décrivent le sahaba qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en train de prier la nuit et donc il s'est joint à lui. Et la première rakat, il a lu Al-Baqarah en entier et puis il a continué. C'était pas pendant le mois de Ramadan, ça. Ça, c'était une période, on va dire, ordinaire. Mais il n'y a pas de période ordinaire parce que chaque jour, c'est un jour pour Allah et chaque nuit, c'est une nuit pour Allah. C'est-à-dire que même en dehors du mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam pouvait passer des nuits ou une grande partie de la nuit à faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. À un tel point que ses pieds, Mubarak, et ses talons étaient fissurés. Pourquoi fissurés? Parce qu'ils restaient longtemps debout. De nos jours, Allah Musta'an, lorsqu'on voit des jeunes, ils viennent à la masjid, parfois ils s'assoient, ils font la prière sur la chaise. On dit, ça va? On dit, non, mais je joue au football. Et donc, on est tombé, adducteur, ligament, ou peu importe. On se dit que, subhanallah, ce dépôt qu'Allah te donne, ce corps-là, tu es en train de l'user sur un terrain. Je ne dis pas que c'est haram, hein, astaghfirullah. Loin de là, de dire que c'est interdit. Mais si on compare avec l'utilisation que le prophète alayhi salatu wassalam faisait de son corps, de ce amana qu'Allah lui a donné, quand on demandait, ya Rasulallah, Allah ne t'a-t-il pas déjà pardonné tous tes péchés? Pourquoi passer des nuits, des heures et des heures de la nuit debout à te fatiguer de cette façon? Le prophète alayhi salatu wassalam répondait, est-ce que je ne dois pas être un serviteur? Shakura, reconnaissant. C'était la reconnaissance. Être reconnaissant, c'est adorer Allah Azza wa Jalla. Et dans d'autres textes, il est décrit quand le prophète sallam était en prosternation, comment est-ce qu'il pleurait dans ses soujouds, le bruit qu'on entendait. Et tout ça, ce sont des textes qui ne concernent pas le mois béni. Donc toute l'année, le prophète sallam faisait énormément de bonnes actions. Il pouvait passer une grande partie de la nuit à faire le ibad. Lorsque le mois de Ramadan était entré, le prophète sallam redoublait de amal saliha, d'efforts. Maintenant, lorsque c'était la dernière décade du mois de Ramadan, son niveau de amal saliha atteignait, on pourrait dire, le paroxysme, le summum. Et parmi les hadiths, les textes qui décrivent, ce sont des textes connus tous les ans. En général, on fait ce rappel, mais le rappel est profitable pour le croire. C'est extrêmement important. Dans la préparation de la dernière décade, on n'a pas inventé des choses, on n'a pas trouvé des histoires extraordinaires. Ce qui est extraordinaire, c'est dans la vie de la prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien de plus magnifique, il n'y a rien de plus exemplaire que le mode de vie prophétique. Et donc, chaque fois qu'on Là, on n'est pas la veille, on y est déjà. Mais quand on aborde la dernière décade, il est important de se rappeler des quelques actions, des quelques textes qui décrivent l'attitude spirituelle du prophète alayhi salatu wassalam de cette dernière décade. Parmi ces textes, on va aller un peu vite. Hadith de Aïcha radiallahu anha. Elle dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr ahya al-layl. Hadith de Muslim. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam vivait la dernière décade, c'est-à-dire tous les ramadans, tous les ramadans de sa vie, lorsque le ramadan était prescrit en an, en quelle année? On a dit ça plusieurs fois. En l'an 2 de l'Hégire. Donc depuis que le ramadan était prescrit, le prophète a donné une importance particulière à la dernière décade. Ça veut dire que nous aussi, nous devons donner une importance particulière à la dernière décade. Autant au début du ramadan, on disait que inconscient, ce musulman, qui va vivre ses jours de ramadan comme n'importe quel jour. Il rentre, il sort, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est de l'inconscience, c'est rafla, c'est de l'insouciance. On doit donner témam une importance spécifique à ce mois, comme on est en train de le faire, alhamdoulilah. Et on pourrait dire que la personne qui aborde cette dernière décade sans donner une attention particulière, c'est une personne insouciante. Parce que de un, il passe à côté d'énormes vertus qu'on va essayer de citer dans les jours qui viennent. Et deuxièmement, il met de côté une sunna, une habitude du prophète sallam qui était de redoubler de vigilance, d'attention spirituelle et de multiplier les bonnes actions durant cette dernière décade. Donc, Aïcha a dit que le prophète sallam, lors de la dernière décade, il passait la nuit, Ahya al-layl, il passait la nuit dans les ibadah. Il y a d'autres hadiths encore qui vont dans le même sens. Le prophète sallam faisait des efforts, il faisait des efforts dans la dernière décade, des efforts qu'il ne faisait pas dans les autres périodes de l'année, même pas durant les 20 premiers jours de Ramadan. D'autres hadiths de lesquels il est stipulé que le prophète alayhi salatu wassalam, durant les 20 premiers jours de Ramadan, كان عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين بالصلاة والنوم. Il passe une partie de la nuit à prier, mais également à dormir. Ça, c'était pendant les 20 premiers Ramadan. فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ. Mais lorsqu'arrivait la dernière décade, le prophète sallam, le centre du hadith d'Imam Ahmed, il passait, comme on l'a dit, la nuit en ibadah. Donc, ça, c'est déjà une indication. Maintenant, on met cette sunnat en application dans la mesure du possible. Mais on fait le maximum d'efforts. On est persuadé que les efforts sont minime. Tout ce qu'on va faire, ça ne représente rien par rapport à ce que le prophète faisait, par rapport aux sahaba, aux tabi'in, par rapport aux pieux prédécesseurs. Mais c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et on s'en remet à Allah. On est sincère dans ce qu'on fait. On doit faire le maximum d'efforts pour faire tout ce qu'on peut. Si mon potentiel à moi, c'est de me réveiller à 3h du matin. Si plus tôt que ça, je ne peux pas. Si on dit à une personne, non, il faut passer la nuit. Alors imaginez que la personne ce soir, il ne dort pas. Il passe la nuit en ibadah. Et demain, à l'heure du boulot, il dort au bureau. Reza, où ça fait livraison demain? Quel endroit?
Dans le sud.
Dans le sud, au littoral. Si on va à notre chauffeur, au chafi, il dort sur le volant. C'est un problème. Donc il faut un juste milieu. Il faut analyser notre mode de vie, ne pas culpabiliser si on n'arrive pas à faire autant, mais faire tout ce qu'on peut. Donc, je reprends, sans être trop long, si quelqu'un travaille, il a un engagement, il travaille au bureau 8 heures, ainsi de suite, il connaît qu'il a une longue journée, c'est sûr que demander à une personne de passer la nuit à Ibadah, jusqu'au Fajr, et après Fajr, il dira qu'il va au travail, humainement, c'est pas possible. Mais Allah Rabbul Izzah, il connaît l'intérieur, la vie, l'historique de chaque personne. La situation de chaque personne est connue par notre Seigneur. Et Allah est Rahman, Rahim. Allah est clément et miséricordieux. Peut-être que, ayant cet engagement professionnel qui démarre de 8 heures non-stop jusqu'à 16 heures, 17 heures, et que peut-être c'est un travail difficile. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment. Il y a des gens qui font des travaux très difficiles, très physiques, qui demandent, subhanallah, énormément d'efforts. Et on se demande parfois comment est-ce qu'ils font pour jeûner et en même temps faire respecter ce travail. Parce que le travail qu'ils font, ça c'est talabu kasbil halal. C'est pour obtenir la subsistance licite. Et ça, c'est sharaf. Ça, c'est un grand honneur. Ça, c'est le izza. Ça, c'est l'honneur du musulman que de ne pas tendre la main et de travailler à la sueur de son front. Il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas beaucoup de diplômes, ils n'ont pas bac plus 7, 8, 9, 10, mais ce qu'ils peuvent faire, ils font au maximum pour amener un peu d'argent à la maison, pour acheter à manger, pour le loyer, pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la maison. Certes, le risque, c'est dans les mains d'Allah, oui ou non? C'est Allah qui donne la subsistance. Mais Allah te demande de faire des efforts. Ça, ce sont des intermédiaires. Donc, cette personne qui doit travailler très tôt jusqu'à, mashallah, jusqu'à l'heure d'iftar, un travail difficile, peut-être que l'heure, une heure ou une heure et demie qu'il va donner dans sa nuit, dans son sommeil qui est précieux, c'est le seul moment de la journée où il peut dormir. Il y a des gens qui ont ce luxe de dormir trois fois par jour. Trois fois dans un cycle de 24 heures. Ils dorment le soir, ils peuvent redormir après Fajr, et ils peuvent faire la sieste après Zohar. Ça c'est, je ne sais pas ce que c'est super ou non, je n'ai pas expérimenté encore dans le mois béni, mais c'est sûr que dans ces circonstances, on peut imaginer passer une nuit. Bitawfiq min Allah, d'accord ? Mais dans un cas comme ça, quelqu'un qui travaille, Allah seul connaît l'intérêt de la personne, peut-être qu'il se réveille à 4 heures du matin, mais ce sommeil-là, c'est essentiel pour lui, pour travailler le lendemain, mais il le fait pour Allah. Et il va passer cette heure ou une heure trente avec beaucoup de dévotion, beaucoup de concentration. Quand il demande des doigts, il va demander avec cœur. C'est comme si tu sais qu'il te reste 5 ou 10 minutes seulement pour accomplir quelque chose de très important. Tu vas mettre toute ton attention. Ben, soyons cette personne. Parce que je pense que la plupart des personnes, mis à part un chim en vacances, les étudiants, ils sont déjà en vacances. Mis à part ceux qui sont en vacances, en congé ou autre chose, mais ceux qui travaillent, ben, faisons tout ce qu'on peut. Mais que ce soit différent des 20 premiers Ramadan. Si par exemple, pour les 20 premières nuits, je me réveille par exemple, je dis un exemple, hein, j'avais l'habitude de me réveiller à 4 heures du matin. Le temps de me réveiller, retrouver un peu l'esprit, boire mon café, ainsi de suite. 4h20, 4h25, je suis sur le tapis de prière. Qiyam al-layl jusqu'à 5 heures. Et puis 5 heures, on mange. Si c'était ça mon habitude, ce qui est correct, si c'était ça mon habitude, ben là, dans la dernière décane, au lieu de me réveiller à 4 heures, je vais me réveiller par exemple à 3h30. C'est une indication, hein, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Mashallah. On a amené le repas pour nous ? Khair, Inch'Allah. Ah, c'est quoi le mu'tad qui finit ? Par exemple, pour les nuits paires, vous vous réveillez à 3h30. À titre indicatif. Hein. Et pour les nuits impaires, où il faudra faire encore plus d'efforts, là, par exemple, se réveiller à 3 heures du matin pour passer le maximum de temps sur le Moussalla. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire sur le Moussalla? Il faut faire la Salah, il faut faire le Dhikrullah, il faut lire le Coran, il faut demander beaucoup de doigts. Tout ce que tu peux demander, tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui te tracasse, tout ce que tu as besoin, tout ce qui anime ta vie, tes objectifs, tes craintes, tes espoirs, tout ça, c'est vraiment le moment pour demander à Allah Azza wa Jal. Parce que c'est dans cette dernière décade qu'il y a la nuit du destin, où les décisions sont prises et appliquées. Donc c'est vraiment le moment de demander à celui qui décrète. Qui c'est qui décrète? C'est Allah. Qui prend les décisions? C'est Allah. Malik al-mulk, tu'ti al-mulk man tasha, wa tanzi'u al-mulk mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Celui qui donne l'honneur, qui donne le déshonneur, c'est Allah qui contrôle tout. Mais c'est à lui qu'il faut demander. Et c'est vraiment le moment pour demander. Il y a des personnes, lorsqu'ils vont Hajj, ils savent pertinemment que le moment le plus fort du Hajj, c'est Arafat. Et là, ils ne piètent pas de temps. Là, ils demandent, ils font doua, même s'il fait 50 degrés. Vont faire les efforts, oui ou non? Mais nous, en tant que croyants qui vivons ce Ramadan, c'est ce mois béni qui vient à nous. Il n'y a pas besoin d'aller à un endroit comme le Hajj où il faut les moyens. Ça concerne chaque mu'mine sur ce dunya qui pourra se réveiller durant la nuit du destin et faire du'a. Ce sera quelque chose d'extrêmement profitable pour lui. Parmi les habitudes du prophète alayhi salatu wassalam également, là on parle, comme on l'a dit, de la dernière décade, sans distinguer nuit père des nuits impair. Et ce serait une erreur d'ailleurs de dire que bon, nuit impair, par exemple c'était hier soir, j'ai fait des efforts. Nuit pair, on pose. Non, non. Les efforts du prophète sallam, ça concernait la dernière décade, sans distinction de pair ou d'impair. Parmi donc ces habitudes prophétiques, quand le Nabi alayhi salatu wassalam yuqidhu ahlahu في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. حديث الطبراني. Le prophète a réveillé sa famille, et même s'il y avait des enfants qui peuvent se tenir debout, ben le prophète les réveillait. Et en commentaire, les savants disent, ça on avait expliqué l'année dernière, il est important d'éduquer nos enfants à donner de l'importance à cette dernière décade. Doit faire partie de la tarbiya, de leur éducation. Doit faire partie des valeurs spirituelles qu'on doit ancrer dans ce petit cœur-là depuis qu'il est petit. Pour que lorsqu'il va grandir, Inch'Allah, il gardera cette importance dans son cœur. Si vous demandez à un enfant, c'est quand le Eid ? Même si vous ne le savez pas, parce que vous devez voir le calendrier, vous ne savez pas c'est quelle date ça correspond, il connaît lui. Parce que dans sa tête, il a intégré le Eid, c'est synonyme de fête, on mange beaucoup, et on a des cadeaux, s'ils peuvent et tout. Bref, ça s'est ancré dans les cœurs des enfants. Et c'est une bonne chose. Ça fait partie des fêtes qu'Allah nous a données. Pareil, il faut faire en sorte que cette dernière décade soit une fête spirituelle. Que nos enfants réalisent que là, il faudra faire beaucoup de bonnes choses. C'est un moment particulier. Et il y a deux façons de procéder. Les deux façons doivent se faire de façon conjointe. Premièrement, le discours. Inciter, expliquer. Et deuxièmement, l'action. L'application. Que les enfants voient papa et maman debout sur le musalla. Maintenant, si tu, avant de dormir, tu l'expliques, c'est important. Puis à l'heure de tahajjud, tu es en train de ronfler. Ça ne marche pas. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle al-qudwa, al-tarbiya bil-qudwa. L'éducation par le discours, oui, mais également l'éducation bil-qudwa en montrant l'exemple. Donc même si on a des enfants, bien sûr, pas 3, 4, 5 ans, mais qui peuvent rester un peu debout, même un moment, qu'ils intègrent ça, que dernière décade, il faut se lever au moins 5 ou 10 minutes. Même si après il va redormir, c'est pas grave. Mais au moins, il a compris que c'est un moment très important. Et bien sûr, il expliquait pourquoi. Pas juste lève, obligé, la foundi, il a dit il faut lever. Non, une éducation intelligente, une éducation posée, une éducation cohérente. Tu expliques à l'enfant, voilà pourquoi il faut se réveiller, qu'est-ce qu'Allah nous donne durant cette dernière décade. Et si tu vas avoir plein de choses, réussir dans tout ce que tu fais, ben c'est le moment de faire droit. Et personne ne t'écoute. Tu demandes ce que tu veux à Allah. Et Allah va t'écouter. Donc, il y a une façon donc de faire passer le message aux enfants. Certains savants disent également que même une femme en état d'impureté, elle doit, dans la mesure du possible, faire l'effort d'être réveillée. Même si elle ne prie pas, elle peut participer dans d'autres bonnes actions comme le dua ou le zikrullah. Mais essayer d'être réveillée. Parmi les habitudes prophétiques durant cette dernière décade, le prophète alayhi salat wa salam n'avait pas de rapport intime avec son épouse. Ça faisait partie de ses habitudes et il avait l'habitude d'accomplir le itikaf pendant 10 jours. Et avant de mourir, le dernier ramadan, il avait doublé le nombre de jours de itikaf. Parmi les habitudes du prophète alayhi salat wa salam, hadith de Aisha radhiyallahu anha, waghtasala bayn al-adhanayn. Il avait l'habitude de prendre une douche selon certains muhaddithin. بين الأذانين, c'est-à-dire بين المغرب والعشاء, prendre une douche entre Maghrib et Isha. Maintenant, si on n'a pas pu pour quelconque raison, l'objectif c'est quoi? C'est un nashat, être frais, être en forme. Parce qu'il y a des fois où vous vous réveillez pour la prière de la nuit, vous êtes fatigué. Prenez un café, ça marche pas. Vous n'allez pas prendre de café. À un moment donné, ça va mal passer. Vous avez palpitations, autre chose. La solution, c'est se laver un coup le visage avec de l'eau glacée, de l'eau fraîche, pas glacée quand même. Et la meilleure des solutions, c'est de prendre une douche. Et quand on prend une douche, hein, ça, comme il dit, ça refait le corps et on se sent bien. Donc ça, c'est une possibilité. Parce qu'il y a des gens, quand ils se réveillent, ils n'arrivent pas. S'ils se réveillent à 2h30, 3h du matin, comme il dit, le corps ne donne pas, ils n'arrivent pas à trouver concentration. Maintenant, si je dois faire le sujda le plus long de la nuit, c'est-à-dire en dormant, ça ne marche pas. Donc autant prendre une douche, on est en forme et on peut faire, Inch'Allah, les bonnes actions. Et parmi les habitudes des pieux prédécesseurs, là, je ne dis pas que c'est une sunna, mais des pieux prédécesseurs, entre autres, il y a Anas Ibn Malik, radiallahu anhu, il est rapporté que lors des nuits de la dernière décade, irtasala wa tatayyaba, il avait l'habitude de prendre un bain, de se parfumer et de mettre ses plus beaux vêtements parce qu'il se présente devant Allah Azza wa Jal. Un verset qu'on avait expliqué c'était au début de Ramadan, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Parmi les commentaires des savants, c'était le fait de s'habiller correctement, au-delà de ce qui s'est passé à Mecca pour les vêtements, ça on avait expliqué, mais de se parer, l'autre istinbab, c'est de se parer quand on va à la mosquée parce qu'on se présente devant Allah. Ben pareil, tu vas passer une nuit devant ton Seigneur, ben on va pas faire ta tahajjud en pyjama, ça va pas aller. même si c'est, ça couvre le aura, c'est pas un caleçon, c'est quelque chose qui est long. Certes, ton aura est couvert, mais par respect pour ton Seigneur, pour montrer ta dévotion, ben, on se tient correctement. Bien sûr, l'analogie ne marche pas là, mais si vous êtes, vous avez rendez-vous avec quelqu'un d'important, bien sûr, on se prépare. Devant Allah Azza wa Jal, on se fait le plus beau possible, on met de beaux vêtements, on se parfume, et tout ça, ça donne une certaine motivation pour que la personne, ben, il va donner de l'importance donc à cette nuit. Hada. Parce qu'il avait expliqué également, c'est bon, ça on va laisser pour demain, parce que on, c'était l'habitude d'un des derniers, la dernière des cas, on fait 10 minutes, pas plus, pour permettre aux gens de rentrer et de se consacrer aux bonnes œuvres. Ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, demain, c'est expliquer un petit peu c'est quoi le taqdir, la nuit. Pas le taqdir, al-qadr, quand on dit al-qadr, ça veut dire quoi qadr, l'importance et le sens du taqdir. Essayer de voir les textes, mais ça on va faire très vite, les textes qui montrent c'est dans quelle période de la dernière décade. Les signes, il n'y a pas besoin, que ça on cite à peu près tous les ans, et on est à une époque où on n'a plus trop l'habitude de voir des signes, mais voir qu'est-ce qui descend comme bénédiction pour prendre de l'importance, pour réaliser son importance. Et ce qu'on regrette un petit peu, mais pas vraiment regretter, on a 20 minutes, le juz qu'on a lu ce soir, c'était le combien juz ce soir? Le 24e, Faman Adlamu. Dans presque toutes les rak'at, pratiquement tout, il y avait de magnifiques, enfin d'effrayantes, magnifiques, effrayantes, les deux adjectifs, descriptions de l'au-delà. C'était vraiment, c'est le juz, c'est vraiment le sipara, Allahu A'lam, de lequel il y a le plus ou alors une grande quantité de versets qui décrivent l'au-delà, et c'est vraiment des versets poignants. Et peut-être que quand, si on termine un peu plus tôt sur les versets, l'explication sur la nuit du destin, on pourrait revenir un petit peu en arrière vers ce juz qui est extrêmement important. Il y a également des versets importants sur la façon de se comporter avec les gens. Quand vous avez un désaccord avec quelqu'un, quelqu'un qui vous veut du mal ou avec qui vous avez une altercation, le Coran dit de parler correctement avec cette personne. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Parfois, quelqu'un vous en veut, ou il a envie de se chamailler avec vous, mais vous lui parlez avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse, et ça peut toucher son cœur. Et cette haine qu'il avait contre vous, ces ressentiments, ben Allah Rabbul Izzah change son cœur et il devient votre allié, votre ami. C'est une leçon de psychologie, c'est une leçon de relation humaine, une leçon de muhabba et de akhlaq magnifique de ce verset. Il y a pas mal d'autres versets encore qui vont de ce sens. Il y a également le magnifique verset Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hein, les promesses et les vertus de ceux qui ont la foi et qui restent fermes dans le droit chemin. Ben c'est inshallah, c'est notre objectif qu'après le Ramadan, nous fassions partie de ces gens qui garde la foi et qui continue les bonnes actions, qui continue à fréquenter la salat et les autres amal qu'on a pris la bonne habitude de développer. Donc, si on a la possibilité, Inch'Allah, on développera bi'idnillah quelques versets. Donc, l'objectif de cette petite intervention de ce soir, c'était prise de conscience de l'importance des nuits que nous sommes en train de vivre. Le simple fait d'être là ce soir dans la masjid, qu'on a fait la salat au tarawih, qu'on s'assoit un instant en train de parler d'Allah, c'est énorme. Même si on n'est pas toute l'année, on n'est pas top top. Chacun, il connaît ses manquements, ses défauts, ses faiblesses. Parce que nous restons des êtres humains. Il n'y a personne qui a un niveau de prophète ou de sahaba ou de malaïka de cette assemblée. Mais le fait d'être là ce soir, c'est qu'Allah nous aime. Allah nous choisit pour faire salat al-Isha, pour faire salat al-Tarawih, pour écouter un peu le dîn d'Allah. Et nous avons espoir que comme Allah nous a choisi pour ces trois actions consécutives, mais Allah nous choisit pour être parmi ceux qui se réveillent tôt ce soir et les dernières nuits de ce mois de Ramadan, pour faire le maximum d'efforts et de ibadah, qu'Allah nous accepte et nous donne la concentration, l'application, l'humilité dans tout ce que nous allons accomplir comme bonne action, qu'on arrive à ressentir. Prier 12 rakats, c'est bien, mais en prier 2 avec concentration, attention, ça c'est quelque chose d'énorme. Il y avait un pieux prédécesseur, on va terminer sur cette citation, j'ai plus son nom en tête, il disait que ça ne lui importe pas de lire, de cumuler beaucoup de juz en dehors du Ramadan, et beaucoup de sipara, de lire de grandes parties du Coran durant la nuit dans ses prières. Il préfère 2 rakats avec Ida zulzilatil ardu wal adiyat wal layli idha yaghsha, avec application, avec méditation sur le sens des versets. Il a dit que pour lui, ça c'est plus important, parce qu'à partir du moment où ça touche le cœur, ben c'est là qu'il y a le réveil. Le réveil spirituel, et ce réveil spirituel doit avoir lieu maintenant. Je n'ose pas dire c'est maintenant ou jamais, parce que la guidée est dans les mains d'Allah. Mais s'il y a vraiment un moment où on veut revenir vers Allah, on veut changer un petit peu nos objectifs et se fixer les bons objectifs, c'est vraiment durant ce mois béni. Au moment de rompre le jeûne, demandons à Allah de nous accepter cette fois-ci durant ce mois béni et qu'Allah exauce nos invocations. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.